badania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bonsoir et bienvenue au Carrefour de l'Europe. Une nouvelle équipe a pris les commandes de l'Union Européenne. Deux hommes la personnifient. Le premier, Jean-Claude Juncker, a longtemps été le Premier ministre du Luxembourg. Il est désormais le président de la Commission Européenne. Européen convaincu, il est affaibli par l'affaire LuxLeaks qui a révélé au grand public la politique fiscale du Luxembourg qui permet à de très nombreuses multinationales de minimiser leurs impôts aux dépens d'autres pays européens. Le second est peut-être un peu moins connu. Il s'appelle Donald Tusk. Il était jusqu'à ces dernières semaines le Premier ministre de la Pologne, choisi par les chefs d'État et de gouvernement pour présider le Conseil européen. Il arrive à Bruxelles auréolé par sa réussite économique. La Pologne est en effet le seul pays de l'Union à ne pas avoir connu de récession pendant la crise. L'un et l'autre ont l'ambition de redonner aux citoyens confiance dans l'Europe alors qu'un climat de méfiance voire de défiance parcourt de nombreux Européens. Il est un peu tôt pour dire si oui ou non ils ont réussi, mais avec nos invités, nous allons partir sur les traces des premiers pas de Donald Tusk et surtout de Jean-Claude Juncker. En direct du studio 41 de RFI, deux acteurs et deux observateurs de la construction européenne. Constance Le Gris, bonjour. Vous êtes eurodéputée UMP-PPE, je crois que c'est votre deuxième mandat.
Absolument.
Vous êtes déjà toute très au fait de
si
la vie parlementaire européenne. On verra.
Si
Pascal Durand, vous aussi, bonjour, vous êtes eurodéputée. Europe Écologie Les Verts, alors que Constance Le Gris était eurodéputée UMP-PPE. Alors vous êtes un jeune eurodéputé, c'est votre premier mandat.
Absolument.
3-4 mois d'expérience.
Un peu plus maintenant, mais oui. Enfin, j'en avais une avant quand même en étant directeur de campagne de la campagne d'Europe Écologie en 2009. Donc, j'avais gardé des liens avec mes amis Danny Cohn-Bendit et autres.
Deux acteurs et deux observateurs. Bonjour Clémentine Forissier.
Bonjour.
Vous êtes la rédactrice en chef du site contexte.com. Contexte.com, en
journal
deux mots toujours.
Journal en ligne sur les politiques publiques françaises et européennes.
Et puis Philippe Herschog. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Vous êtes enseignant et chercheur à l'UCL, l'Université catholique de Louvain. Louvain, c'est la banlieue de Bruxelles.
C'est le Brabant wallon.
Enfin, c'est tout près de Bruxelles, on est d'accord. Hein,
oui.
Voilà. Vous avez publié notamment un livre qui s'appelle « Correspondance européenne aux presses universitaires de Louvain ». Alors, Jean-Claude Juncker le dit et le répète à qui veut bien l'entendre, il préside la commission de la dernière chance. Jean-Claude Juncker.
J'ai dit pendant la campagne électorale, et je l'ai répété devant le Parlement européen, que je voudrais que cette fois-ci, c'est notre dernière chance, nous présentions aux yeux des citoyens de l'Europe une Union européenne qui est en charge des grands problèmes, qui est ambitieuse lorsqu'il s'agit des grands problèmes, qui voit grand lorsqu'il faut voir grand pour résoudre les grands problèmes, et qui est modeste, timide, presque inexistante lorsqu'il s'agit des problèmes mineurs.
Jean-Claude Juncker se veut un homme pragmatique. C'est vrai que l'on a fait souvent le reproche à la Commission européenne et notamment à la Commission Barroso de s'occuper de tout et surtout de n'importe quoi, comme la taille du concombre ou le flaconnage de l'huile d'olive dans les restaurants. En termes d'efficacité et de simplification, est-ce que vous diriez, Philippe Herschog, qu'il y a une bonne marge de progression ?
Oui, mais il est bloqué par les compétences de l'Europe. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il affiche de grandes ambitions et on lui souhaite, disons tous, qu'il puisse réussir. Mais les compétences de l'Europe sont malheureusement plus dans le flaconnage de l'huile d'olive dans les restaurants que sur les grands sujets. On parlera probablement tout à l'heure de fiscalité. Les compétences européennes en termes de fiscalité sont quand même limitées puisque c'est l'unanimité des États membres.
Alors c'est évidemment un des enjeux de cette nouvelle commission. Alors, sa nomination à la tête de la commission a été un parcours du combattant, son nom ayant suscité des réactions hostiles de la part de certains chefs d'État. C'était par exemple le cas de David Cameron. Petit résumé de l'ascension de Jean-Claude Juncker avec Maria Fonso.
Le choix de Jean-Claude Juncker ne convenait pas à David Cameron. Selon le Premier ministre britannique, Jean-Claude Juncker a été toute sa vie au cœur du projet européen pour accroître les pouvoirs de Bruxelles et réduire le pouvoir des États. Une horreur d'un point de vue britannique. Et pendant la campagne, David Cameron avait mené une véritable croisade contre la candidature de Jean-Claude Juncker. Le Premier ministre britannique dénonçait un homme du passé qui n'a été candidat nulle part et n'a été élu par personne. Il l'accusait même d'être la mauvaise personne pour diriger la Commission européenne. Déclaration de David Cameron.
This is a bad day for Europe.
C'est un mauvais jour pour l'Europe. Elle court le risque de fragiliser la position des gouvernements nationaux et court le risque de fragiliser le pouvoir des parlements nationaux. Et elle donne ainsi de nouveaux pouvoirs au Parlement européen. En regardant vers le futur, tout ce processus a simplement renforcé ma conviction que l'Europe doit changer.
That Europe needs to change.
Inflexible jusqu'au bout, David Cameron a pourtant perdu la partie.
Le Premier ministre britannique a bien tenté de s'allier avec les gouvernements suédois et néerlandais, mais le soutien même discret d'Angela Merkel à Jean-Claude Juncker a mis fin au suspense. Dans la foulée, un mini-sommet social-démocrate s'est déroulé en juin à Paris. En jeu, toujours le soutien à Jean-Claude Juncker. Déclaration de François Hollande à l'issue de la réunion des 9 chefs d'État et de gouvernement de la gauche européenne à Paris.
Les priorités que nous avons retenues, c'est d'abord la croissance et l'emploi en utilisant toutes les marges, toutes les souplesses de ce qu'on appelle le pacte de stabilité et de croissance. Nous avons dit que nous respections les institutions européennes, l'esprit qui a été celui qui a présidé aux élections européennes, c'est-à-dire que le parti qui arrive en tête puisse proposer le candidat qui a été présenté, en l'occurrence aujourd'hui Monsieur Juncker.
Donnant, en échange du soutien des chefs de gouvernement à Jean-Claude Juncker, ils ont monnayé une politique qui tourne le dos à l'austérité.
C'est le cas de l'Italie qui a obtenu plus de souplesse au niveau du pacte de stabilité. Matteo Renzi, le président du Conseil italien, l'a rappelé il y a quelques jours devant le Parlement italien.
Il y a trois lettres dans le pacte de stabilité et de croissance. Il y a le P de pacte et il n'y a pas que le S de stabilité. Il y a aussi le C de croissance. Et donc notre soutien à la candidature de Jean-Claude Juncker est lié à une stratégie différente de la part du président de la Commission en ce qui concerne la politique économique.
Avec son plan d'investissement de 300 milliards d'euros, le président de la Commission européenne espère mettre la croissance au cœur de l'agenda européen. Jean-Claude Juncker semble mettre tout le monde d'accord.
Au moins sur l'idée de redynamiser la croissance européenne. Alors Maria Afonso vient de l'évoquer, le point d'équilibre entre Angela Merkel et François Hollande ou Matteo Renzi, autrement dit entre la discipline budgétaire, la poursuite des réformes structurelles et l'investissement pour relancer la croissance, c'est ce programme de 315 milliards d'euros dont on a un peu de mal à voir s'il est un effet d'annonce ou un formidable coup de pouce à l'économie européenne, Clémentine Forissier.
On dit que c'est la multiplication des pains et des poissons, c'est-à-dire qu'on part de 21 milliards d'euros de garanties qui vont se transformer en fait en 315 milliards d'euros d'investissement. Donc c'est vrai que le
alors quand on est un individu normalement constitué, on se demande comment.
Alors ce qui est pas extrêmement étonnant, c'est qu'aujourd'hui plus personne n'a d'argent. Donc sortir de l'argent frais du budget des États, parce que ça peut pas être forcément du budget européen qui est déjà extrêmement limité, même si on a été en récupéré, c'est pas complètement absurde de fonctionner avec un système de garantie qui soit soit des prêts, soit des fonds propres. Mais après c'est vrai que pour le citoyen ça paraît extrêmement difficile à comprendre. Et surtout, ce plan, il est aujourd'hui pas complètement bouclé parce que Jean-Claude Juncker a dit plusieurs fois, j'ai pas besoin de parole, je veux de l'argent à destination. Et il s'adressait aux États pour leur dire, il faut que vous participiez à ce plan. Et aujourd'hui, et on l'a vu à Bruxelles très très récemment lors du dernier Conseil européen, les États ont dit, pour le moment, nous, on ne participe pas, on attend de voir. Il y a trop peu, en fait, d'assurance pour les États de récupérer de l'argent qu'ils auraient investi. Ils ne pourront pas savoir avant si je mets deux, est-ce que je vais récupérer deux. Et donc, tant qu'ils ne savent pas s'ils pourront avoir ce qu'on appelle en jargon européen leur juste retour, pour l'instant, eh bien, ils n'ont pas décidé de participer à ce plan. Donc, il y a encore beaucoup d'inconnus sur la façon dont ça va pouvoir se mettre en place, à quel rythme, avec quel type de gouvernance, pour utiliser un mot de jargon, c'est-à-dire, voilà, qui va pouvoir décider quels vont être les projets qui vont être financés et à quelle hauteur.
Constance Le Grif, il faut croire au plan Juncker ou c'est simplement un effet d'annonce?
Non, ça n'est pas un effet d'annonce. Il faut croire au plan Juncker, bien évidemment. Je rappelle qu'il s'agit d'un plan sur 3 ans qui, sur ces 3 années-là, devrait être porté à un montant global de 315 milliards d'euros. Il ne s'agit pas d'argent public. Il ne s'agit pas d'argent qui, effectivement, serait tiré de manière miraculeuse des budgets européens ou des budgets nationaux. Il s'agit de combiner de manière astucieuse, innovante, de l'argent public, des fonds publics et des fonds privés. Nous savons qu'à la surface du globe existent d'énormes masses de liquidités qui ne demandent qu'à être employés, qui ne doivent qu'être employés sur des projets crédibles, des projets rentables, des projets d'investissement qui préparent l'avenir. C'est ça l'esprit du plan Juncker. C'est dans un esprit, je dirais, de partenariat public-privé et en faisant jouer des effets multiplicateurs, des effets de levier, transformer effectivement sur la base de la garantie de 21 milliards d'euros une grande partie des ressources financières qui existent de par le monde en du financement pour des grands investissements d'avenir sur le sol de l'Union européenne. Donc il faut y croire. Il y aura un effet d'entraînement incontestablement. Un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement l'ont dit à l'issue du Conseil européen. L'expression effet boule de neige et d'autres expressions ont été employées. Mais bien évidemment, en économie comme en politique, la base de départ de tout projet, c'est la confiance. Donc on a besoin de confiance. Il est temps que l'Europe retrouve confiance en elle pour arriver à donner confiance à d'autres investisseurs ailleurs dans le monde.
Pascal Durand, alors est-ce que vous avez confiance dans le plan Juncker ?
Écoutez, j'aimerais tellement pouvoir vous répondre oui. Ça fait tellement de temps que nous souhaitons que l'Europe puisse investir et puisse un peu prendre en main les grands défis qui se présentent devant ce continent pour le 21e siècle. En réalité, moi je suis très inquiet. Je suis très inquiet d'abord parce que je vois une absence totale de vision. Encore une fois, on en appelle aux États. Encore une fois, on demande aux États, sortez-nous quelques projets, on va regarder dedans, on va faire le tri. On comprend pas très bien comment ça va fonctionner. On sait pas véritablement quel type de projets vont être privilégiés et financés par ailleurs. Les 21 milliards pour le moment, enfin c'est une goutte d'eau. J'allais dire, s'il n'y avait pas 25 millions de chômeurs, j'ai envie de dire c'est une plaisanterie.
Alors, c'est vrai qu'il faut resituer 21 milliards. Le PIB de la France, c'est 2000 milliards à peu près. C'est un millième.
Une goutte d'eau. On a bien vu que pour le CICE, c'est de la première mesure qu'avait mise en place le gouvernement Hollande. C'était 20 milliards, c'était le CICE. Et on voit d'ailleurs qu'il n'a quasiment aucun effet. Et quand je dis quasiment, on peut enlever le quasiment. Il n'a aucun effet. Donc on voit très bien que c'est un levier totalement insuffisant. Mais là où je suis assez inquiet, c'est qu'on ne voit pas très bien le mécanisme. C'est-à-dire, est-ce que ces 21 milliards, comme on nous l'a dit, ça va être des garanties qui vont être simplement là pour donner des garanties publiques à des investissements privés? Et ça, je sais ce que ça s'appelle. Ça a un nom. Ça s'appelle la mutualisation des éventuelles pertes et puis les profits pour le privé. Donc moi, je suis assez inquiet sur la manière dont ce plan est mis en œuvre. D'abord, une insuffisance notoire. Ça n'est pas sérieux, ça n'est pas raisonnable de croire qu'il va y avoir un effet de levier de 1 à 15, parce que pour passer de 21 milliards à 350, etc., ça fait un effet de levier énorme. Donc déjà, j'attends de voir comment ça va se faire. Deuxièmement, on n'a pas mis en place une dynamique à l'égard des États. Encore une fois, on n'est pas sur une logique, par exemple, est-ce qu'on privilégie une grande Europe de l'énergie? Est-ce qu'on privilégie enfin toute la question des réseaux, de l'interconnexion? Est-ce qu'on privilégie un type de transport et lesquels? Est-ce qu'on privilégie l'efficacité énergétique? Enfin, ça va donner énormément de travail à nos jeunes, aux bâtiments, aux PME, aux TPE. Tout ça, c'est pas délocalisable. Est-ce que c'est ça qu'on va faire? Ou est-ce qu'on va encore continuer les délires des grandes infrastructures inutiles, les aéroports, les ronds-points, les autoroutes? Est-ce que ça va être ça? Donc moi, je suis inquiet. En revanche, et là je rejoins tout à fait Mme Le Grip, nous avons une nécessité d'avoir des investissements en Europe. Et ces investissements ne peuvent plus être le fait que des États. Ça, c'est tout à fait juste. Il faut trouver cet équilibre. Je dis simplement, quand l'État, et je le regrette, je suis inquiet, on va dire, du caractère tout à fait petit bras de cette non-ambition de M. Juncker.
Clémentine Forestier, il y a un pays dont on attend beaucoup, c'est évidemment l'Allemagne. Est-ce que l'Allemagne va amorcer ce fonds d'investissement de 315 milliards. Pour l'instant, Angela Merkel, elle est très réservée.
Elle est très réservée, mais on peut regarder l'Allemagne, mais on peut aussi regarder la France. Enfin, je suis désolée, mais la première personne qui a parlé d'investissement et de la nécessité de mettre la main à la poche là-dessus pour réorienter l'Europe, c'est la France. Et la France est la première à dire, pour le moment, le fonds, on n'investit pas en attendant de voir. Donc on peut toujours critiquer les Allemands, mais enfin, il faut aussi commencer par regarder chez nous.
Philippe Herschock, sur cette méthode Juncker, qui est quand même une méthode un peu volontaire par rapport à ce qu'on a pu connaître avec la commission Barroso et peut-être un petit peu avant, est-ce qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant ?
C'est-à-dire que je pense que ce qui est intéressant, c'est l'idée de dire qu'il faudrait investir à l'échelle de l'Europe. Et ça, c'est quelque chose que Delors disait déjà il y a 25 ans, mais qui n'a pas été fait. Mais sur des infrastructures qui soient des infrastructures européennes. C'est-à-dire que ça ne devrait pas être à chaque État membre de dire ce qu'il va financer dans son État membre avec ses investissements. Première chose. Et deuxième chose, il faudrait accepter qu'une partie de ces investissements, notamment dans la recherche, soient des investissements risqués. C'est-à-dire que peut-être qu'une partie de l'argent ne reviendra pas. Et ça, dans la logique comptable dans laquelle on est aujourd'hui, on voit pas trop comment est-ce qu'on pourrait faire ça. Or, les grands investissements de demain, si on veut investir dans l'énergie, dans les transports, dans l'économie du futur, il faudrait accepter qu'un investissement, c'est forcément une prise de risque.
Alors, c'est vrai que l'argent n'est pas encore sur la table, que tout le monde a déjà beaucoup d'idées pour le dépenser. Alors, pour ne prendre qu'un seul exemple français, les Français sont très prêts à financer, on ne sait pas trop comment, mais une liaison directe entre l'aéroport de Roissy et Paris via la gare de l'Est. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu perturbant. Qui pourrait rebondir? Constance Le Grip.
À l'heure où nous parlons, il n'y a pas encore de catalogue à la Prévert qui soit officiellement arrêté. On entend bien de ci, de là, surgir quelquefois de vieux cartons de l'administration française ou notre administration nationale, tel ou tel projet, mais, et c'est un enjeu qui a été évoqué précédemment, c'est tout celui de la sélection, du choix et donc du pilotage qui va devoir être opéré dans ce grand plan d'investissement sur les bons, vrais projets européens qui seront des projets d'avenir. Mais encore une fois, il est trop tôt pour commencer à se gausser de tel ou tel projet. La vraie question, et le Parlement européen, je pense, aura son mot à dire, et en tout cas le dira, dès le mois de janvier, quand on nous présentera notamment l'architecture à travers un document législatif du Fonds européen d'investissement stratégique, c'est de mettre en place des modalités de pilotage intelligentes de ces futurs investissements d'avenir. Alors,
si l'effet de levier fonctionne, il y aura 315 milliards sur 3 ans, et ce n'est pas considérable à l'échelle de l'Europe, mais qui va choisir les projets qui sont retenus, Clémentine Forissier?
Mais justement, et c'est là où moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur un point, c'est que Juncker, on peut lui créditer ça, c'est qu'il avait envie de dépasser justement les États et de dire on crée un comité d'experts ad hoc dissocié des intérêts partisans ou nationaux, etc., pour essayer de choisir les projets qui économiquement sont les plus intéressants, parce que il existe déjà des fonds qui sont alloués à des projets qui ne seraient pas financés par le privé, donc ça l'Europe s'en occupe déjà. Donc on choisit les projets économiquement intéressants et on essaye de faire appel à des gens qui ne seront pas préoccupés justement par des calculs de boutiquier de si je mets tant, combien je vais recevoir en échange. Pour le moment, les États ont dit il est hors de question que ça se passe de cette manière. Donc tout reste à faire dans cette architecture-là. Mais de ce point de vue-là, Juncker a redit qu'il n'était pas question qu'il y ait une sorte de pré-allocation géographique. Donc ça veut dire que, pour le moment, il n'a pas intention de céder sur cette manière dont les projets vont être sélectionnés. On verra, hein,
ça sera aujourd'hui. Peut-être, ce qui manque, ce que fixait Philippe Herschock, c'est peut-être de vrais grands projets européens.
Une vision européenne, c'était en fait ce qui manque là. Moi, j'entends bien. Enfin, d'abord, les États ont commencé à donner leurs listes. Et comme d'habitude, l'administration, elle a donné les listes des projets qu'elle avait dans ces tiroirs. Donc
bien
on va
sûr,
ressortir les vieux projets du 20e, on va voir ressortir en France tout ce qui a de besoin d'être financé et qui pour le moment est bloqué. Là où Juncker a failli pour le moment et là où il n'a pas su donner l'impulsion qu'un Jacques Delors, à mon sens, aurait su donner, c'est quelle vision européenne, c'est-à-dire parce que c'est trop facile de se retourner vers les États en disant bon ben sortez-nous des projets, on va faire le tri. Mais d'abord et avant tout, quelle Europe on veut construire, quels investissements et quelles conditionnalités on met. Après, on aurait pu discuter. Puis par ailleurs, zéro imagination sur le financement. Zéro. C'est-à-dire que les crédits, on n'a pas du tout essayé de trouver des financements innovants, alors que ça fait des années que les économistes travaillent dessus et disent il faut trouver de nouveaux systèmes. On porte par exemple un crédit d'impôt différé sur 5 ans avec conditionnalité. C'est quelque chose qui marche, qui pourrait marcher. Encore faudrait-il que l'Europe s'en saisisse.
On en est pour l'instant à dire que les investissements n'alourdirait pas la dette des pays. C'est un petit peu, évidemment, c'est peut-être un peu juste, Philippe Herschock.
Oui, alors laissez-moi peut-être vous donner un exemple. Peut-être sur les énergies du futur, il y a tout un travail à faire sur l'éolien en mer, l'énergie venant de la mer. C'est évident que les retours sur investissement direct pour les Hongrois sur les énergies de la mer sont limités, puisqu'en Hongrie, il n'y a pas la mer. Néanmoins, ça augmenterait l'indépendance énergétique de l'Europe et ça bénéficierait à tout le monde. L'important, c'est de pouvoir, en fait, créer un climat de confiance, parce qu'avant tout, ici, on parle d'investisseurs privés, qui permettrait à ces investisseurs privés de venir mettre de l'argent en étant sûr que ça serait rentable, de manière à créer ces infrastructures dont nous les Européens, et là je dis tous les Européens, peu importe leur position géographique, ont besoin pour le futur.
Carrefour de l'Europe, on va faire une petite pause, le temps des infos sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Et dans 3 minutes, très exactement, nous reviendrons avec nos invités sur les traces des premiers pas de Jean-Claude Juncker. A tout de suite.
Zrozumienia europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stawrodromy z Europy.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe. Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Une nouvelle équipe a pris les commandes de l'Union Européenne. Deux hommes la personnifient. Le premier, Jean-Claude Juncker, a été longtemps le premier ministre du Luxembourg. Le second, peut-être un peu moins connu, s'appelle Donald Tusk. Il était, jusqu'à ces dernières semaines, le premier ministre de la Pologne. Cette nouvelle équipe va-t-elle redonner confiance en l'Europe, aux Européens? Avec nos invités, nous sommes sur les traces des premiers pas de Jean-Claude Juncker et de Donald Tusk. Je vous les représente rapidement. Constance Le Grip, eurodéputée UMP-PPE. Pascal Durand, eurodéputée Europe Écologie Les Verts, Clémentine Forestier, rédactrice en chef du site contexte.com, et Philippe Perchoc, enseignant et chercheur à l'UCL, l'Université catholique de Louvain. Alors, on l'a vu et entendu dans la première partie de l'émission, une Commission européenne pragmatique, plutôt ambitieuse dans sa volonté de relancer l'économie en Europe à travers un fonds d'investissement de 315 milliards. La Commission Juncker tranche déjà avec les précédentes et palottes Commissions Barroso. Certains se demandent si la Commission ne va pas devenir un gouvernement sous le contrôle du Parlement européen. On va rejoindre Jerry Philly et la rédaction de Courrier International. Jerry, bonjour. Adrian Schutt, qui est responsable de l'Institut Clindengal de l'AS, s'inquiète d'une possible dérive des institutions européennes.
Voilà, Daniel. C'est un papier, en fait, qui s'inquiète énormément sur cette question d'équilibre entre la Commission, le Parlement et les pays membres, parce que il faut se rappeler, souvenons-nous, les enjeux sont immenses. Comme dit l'auteur, à Bruxelles et dans d'autres capitales européennes, de hauts fonctionnaires mettent en garde contre l'effondrement même de l'Union si cette commission ne parvient pas à mener à bien les réformes. Alors, rappelons aussi qu'il y a un vice-président néerlandais à la Commission européenne. Il s'appelle Frans Timmermans, c'est l'ancien ministre néerlandais des Affaires étrangères. Lui, à une certaine époque, il voulait une Europe focalisée, c'est-à-dire une Europe sans détails superflus ni des projets trop ambitieux. Et voilà, il a même cette année au Financial Times, il a plaidoyé en faveur d'un rôle proportionnel des États membres et du Parlement européen pour établir l'ordre du jour de la Commission. Mais en fait, depuis, il a un peu changé la disque, selon l'auteur. Désormais, Juncker et Timmermans soulignent tous les deux l'entrée d'une commission plus politique. Et comment ça se traduit? Ça se traduit avec ce grand geste, ce plan d'investissement de 300 milliards d'euros que l'auteur qualifie de bancal. Il dit quand même, il souligne que si la notion d'un gouvernement européen était jusque-là tabou, parce que c'est ça qu'il dit, il est en train de dire que nous avons maintenant une commission européenne qui a dirigé un gouvernement européen, la commission dirigée par le Parlement européen. Voilà, ce gouvernement européen était là jusque-là tabou. Aujourd'hui, on entend parler de plus en plus ouvertement.
Jerry, merci. C'est évidemment un papier à lire dans son intégralité sur le site courrierinternational.com. Alors, Constance Le Grip, Pascal Durand, les eurodéputés ont trop de pouvoir. Constance Le Grip, je poserai la question à Pascal Durand tout de suite après.
Non, ni la Commission européenne, ni les députés du Parlement européen n'ont trop de pouvoir. Je ne crois pas que le risque qui menace actuellement l'Union européenne, ce soit le dépérissement des États membres, j'allais dire à certains égards, sur certains sujets, bien au contraire. Je salue plutôt cette volonté qu'ont eu Jean-Claude Juncker et Frans Timmermans de muscler, je dirais, leur programme, de donner au collège des commissaires des orientations claires, de se concentrer sur des priorités, de redonner en quelque sorte toutes ces lettres de noblesse à la Commission européenne, cet organe tout à fait original dans le paysage institutionnel qui doit incarner l'intérêt général européen, mais qui n'est pas un gouvernement. C'est l'incarnation de l'intérêt général européen.
Pascal Durand, vous avez l'impression d'avoir soudain beaucoup de pouvoir, voire trop?
Non, certainement pas. Et on a encore beaucoup à faire. Ce qui est évident, c'est qu'en Europe, il y a beaucoup trop de pouvoir pour les États. C'est-à-dire que l'Europe est encore dirigée par des coalitions, par des intérêts réciproques. On l'a vu, mais même dans la constitution de la Commission elle-même. Avec, je te donne Moscovici là, et tu me laisses Cagnetti à l'énergie, etc. Tout ça, c'est des arrangements entre États. On voit bien que la Commission actuellement est soumise au désir des des États. On le voit aussi, la capacité de blocage des États. On parle, Monsieur Juncker a beaucoup parlé de la nécessité de réformer et la gouvernance économique, et la gouvernance fiscale, etc. On voit que la France, par exemple, sur la taxe sur les transactions financières, est en train de tout bloquer sur instruction, en gros, de la BNP, de la Société Générale. Et donc, la France qui devait être à l'origine, justement, de cette mobilisation de nouveaux fonds pour l'Europe et d'essayer un peu de constituer un budget propre, bloque tout, parce que il y va, pense-t-elle, des intérêts français. Donc on voit bien que ce sont les États pour le moment et les égoïsmes nationaux qui sont dans des logiques de concurrence. Ça n'est certainement pas le Parlement et même la Commission, effectivement, qui porte normalement, comme le Parlement, l'intérêt général européen, qui a trop de pouvoir, loin s'en faut.
Alors si Jean-Claude Juncker vous laisse fermi, il a été affaibli par l'affaire LuxLeaks. Clémentine, l'affaire LuxLeaks, en quelques mots, c'est possible ?
En quelques mots, oui, en fait, c'est qu'il y a eu une coalition de certain nombre de journaux qui, début novembre et début décembre, ont révélé des montages financiers tout à fait légaux qui permettaient aux entreprises qui avaient leur siège au Luxembourg de bénéficier d'impôts sur les sociétés extrêmement bas, en très très résumé. Ça a été une grosse révélation. C'est pour l'anecdote, la première, je crois, a eu lieu la veille de l'anniversaire de Jean-Claude Juncker, dans la deuxième, la veille de son anniversaire, et puis la veille du jour où il prêtait serment à la Commission, ou le jour même. Enfin, vraiment, c'était
un mauvais moment pour lui.
Ça a été révélé au grand public, mais je pense que ça n'a pas étonné énormément de gens autour de cette table qui savent très bien que le Luxembourg, depuis toujours, a des pratiques fiscales avantageuses pour un grand nombre d'entreprises. Il faut quand même rappeler que ces pratiques, en tout cas celles qui sont décrites dans ces articles de journaux, sont légales. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas comme si on avait révélé des situations qui n'était pas. Moi, je pense que c'est un mal pour un bien, cette histoire. C'est-à-dire que dans un certain point de vue, que ça arrive tout au début d'une nouvelle commission, etc. On peut se dire, oh là là, l'Europe n'a pas besoin de ça. Et en même temps, moi, je trouve que c'est très bien.
Ça va obliger à se poser la question.
Exactement.
Jean-Claude Juncker, on en a de la révélation de l'affaire LuxLeaks. Il peine un peu à convaincre.
J'avais dit, et je l'ai rappelé ce matin au collège, devant le Parlement européen, par écrit et oralement, que la Commission lutterait contre l'évasion fiscale et contre la fraude fiscale. Et je voudrais que tout le monde sache que ce ne sont pas paroles et paroles, et words and words, et propos libres en l'air, mais que ça reflète l'intention et l'ambition de la Commission. Cela fera partie du programme de la Commission, puisque nous sommes en faveur d'une meilleure transparence fiscale sur le territoire de l'Union européenne.
Alors, Philippe Herschock, on a deux cas de figure. Jean-Claude Juncker peut-il être l'homme de l'harmonisation fiscale en Europe ? Et est-ce qu'il peut ne pas l'être ?
Oh bah, il ne peut que l'être, puisque maintenant que ça a été révélé, je pense que tout un tas de médias européens, d'opinion publique ou même d'États membres vont quand même jeter un œil là-dedans. Après, le problème étant, comme l'a très bien dit Pascal Durand, de pas jouer le double jeu, de se proclamer en faveur d'une harmonisation fiscale et par derrière de bloquer tout ce qui pourra être mis en œuvre par la Commission Juncker.
Constance Le Grip, c'est arrivé à un bon moment. Ça oblige finalement Jean-Claude Juncker, qui se serait probablement arrangé de cette situation, ça l'oblige à réagir.
Écoutez, je ne sais pas si c'est arrivé à un bon moment ou un mauvais moment. C'est arrivé. En politique, on gère par définition toujours l'imprévu et on s'adapte à son environnement. Et clairement, je partage ce qu'a dit Clémentine Forissier. Le fait que ça arrive en début de mandature est un coup de booster phénoménal, s'agissant de manière générale de la lutte non seulement contre la fraude et l'évasion fiscale, mais également, je dirais, de la mise en place d'instruments visant à essayer d'introduire plus de convergence fiscale et de lutter contre le dumping fiscal qui existe à l'intérieur de l'Union européenne et dont le Luxembourg n'est pas le seul responsable. Oui, ne pointons pas du doigt uniquement le Luxembourg, même si le Luxembourg a, semblerait-il, pratiqué avec un art assez consommé certaines de ses outils innovants et imaginatifs. Globalement, la balle, maintenant...
C'était les Pays-Bas, le Royaume-Uni,
l'Irlande, son taux d'imposition sur les sociétés, etc. La balle est dans le camp des États membres, en réalité. Là, Commission européenne va proposer, en déclinaison, je dirais, des grandes décisions arrêtées au G20 de Brisbane, un certain nombre d'instruments législatifs. C'est Pierre Moscovici qui doit être à la manœuvre, qui va proposer des projets de directives, des projets de règlements. Mais il faudra voir maintenant, effectivement, s'il n'y a pas de l'hypocrisie, du double langage et de la fuite de la part d'un certain nombre d'États membres. Le Parlement européen, je pense, sera prêt à prendre ses responsabilités, comme il l'a déjà fait d'ailleurs sur le texte visant à assurer une assiette consolidée de l'impôt sur les sociétés, un texte que nous avons voté au Parlement européen et qui est encarafé depuis un bon nombre d'années au niveau du Conseil. Donc la balle, elle est en réalité maintenant plus dans le camp des gouvernements, des États membres. C'est eux qui ont la pression pour répondre aux envies et aux préoccupations de nos concitoyens.
Parce que Laurent, il y a déjà un premier pas qui a été fait en ce qui concerne l'échange d'informations au niveau des particuliers. Lorsqu'on est un particulier, c'est devenu de plus en plus difficile de frauder, de ne pas payer ses impôts.
Évidemment, la deuxième une grosse société que
la deuxième étape, elle concerne les entreprises.
Et il vaut mieux s'appeler Total que s'appeler le petit artisan au coin de la rue.
Ça, et leur filiale et une invention.
42 filiales de la BNP au Luxembourg. Enfin, on parlait tout à l'heure des banques. Mais juste moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Mme Le Grip. C'est tout à fait juste que le Parlement peut jouer son rôle. Nous portons, les députés écologistes, mais au-delà, nous portons le fait que le Parlement se saisisse d'une commission d'enquête sur cette question. Donc, j'attends de voir si effectivement les autres partis nous soutiendront dans cette démarche. Parce qu'en l'état, il y a un problème de conflit d'intérêts évident. C'est que M. Juncker, président de la commission, dit oui, non, mais on va faire une enquête sur ce qui s'est passé, mais c'est ma commission qui va la faire. Et j'ai toute confiance dans la commissaire qui travaille, bien sûr. Ça me rappelle tout à fait M. Moscovici et Cahuzac. C'est-à-dire, on fait enquêter une administration sur le ministre en charge de.
Donc, ça, c'est une première chose. Au Parlement européen, est-ce que le braconnier peut être un excellent garde-chasse?
Et pire que ça, c'est-à-dire que là, le Parlement peut parfaitement saisir et faire son travail. On est dans une démocratie, donc on pourrait la faire. Mais moi, je voudrais juste dire un mot. Il y a un mot qui j'entends dire depuis le départ par M. Juncker, et ça a été répété, mais j'aimerais bien qu'on en débatte un tout petit peu plus, pas maintenant, mais dans le fond, d'où la commission d'enquête. Est-ce que c'est vraiment légal? Parce que tout le monde nous dit, oui, non, mais vous comprenez, c'était légal ce qu'on fait. Moi, j'ai le souvenir quand même que quand on veut aider, par exemple, une entreprise comme Florange, et que l'État dit, il y a une entreprise qui va fermer, il va y avoir du chômage, etc., on va aider. Et là, tout de suite, la commission vient nous dire, ah non, attendons, c'est de l'aide indirecte d'État. Donc, très bien. Et là, on m'interdit de le faire. Et là, c'est pas de l'aide indirecte d'État. C'est-à-dire qu'on des entreprises, des grandes multinationales qui n'ont aucune activité au Luxembourg, mais qui vont y payer parfois 0,5 ou 1% d'impôts. Ça n'est pas de l'aide indirecte d'État. Eh bien, moi, j'aimerais qu'on me le démontre. Mais j'aimerais qu'on me dise que ce que je ne peux pas faire à Florange pour sauver des emplois, pour sauver une industrie, au Luxembourg, Monsieur Juncker et ses petits amis en Hollande ou ailleurs, en bons libéraux qu'ils sont, ont le droit de le faire. Parce que ça, c'est directement, pour moi, de l'aide d'État. Donc, j'aimerais qu'on en discute. Et alors, je ne suis pas certain qu'à la fin,
c'est bien pour ça que la Commission européenne, que cela. Depuis plusieurs mois, ça date de la Commission Barroso, est saisie et que c'est la commissaire en charge de la concurrence qui mène l'enquête.
Le Parlement qui la mène, cette enquête, je me sentirais bien mieux au niveau des conflits d'intérêts, je vous assure, pour enquêter sur M. Juncker, que demander à la Commission d'enquêter sur son propre patron.
Il ne s'agit pas d'enquêter sur M. Juncker. On n'en est pas à faire du naming and shaming particulier. Ce sont des pratiques d'État qu'il faut certainement dénoncer.
On
ne
va pas effacer avec une gomme le fait que M. Juncker a, pendant des années, porté ce procès.
Le Luxembourg a certainement pendant des années.
Clémentine Fournier qui va apaiser cette assemblée.
On est juste passionné par un sujet grave.
Surtout pas l'apaiser,
au contraire. C'est vrai que des entreprises qui payent des impôts là où elles exercent leur activité, ça paraît plein de bon sens. Et on voit bien que ça va pas de soi.
Non, mais ça va pas de soi. Et en fait, ce que Pascal Durand dit est tout à fait juste. Et d'ailleurs, c'est l'arme que la Commission européenne est en train d'essayer d'utiliser. C'est-à-dire que comme elle peut pas utiliser l'harmonisation fiscale, puisqu'il faut l'unanimité, que ça va être très très compliqué, il y a des demandes d'information qui ont été faites à tous les États de l'Union européenne sur justement leurs pratiques à l'égard de ces entreprises pour être sûr que ces taux d'imposition très très bas ne constituent pas effectivement des aides d'État. Et ça pourrait être la première étape pour justement sanctionner ou en tout cas empêcher de ce type de pratique de s'accomplir. Là où on peut toujours avoir effectivement des doutes sur le fait que ce soit la Commission elle-même qui enquête sur les pratiques de son ancien président, etc. Cela dit, je crois que, alors bon, mais là c'est vraiment une impression de début de mandat et elle doit se confirmer, mais la commissaire à la concurrence a l'air quand même d'être assez... ses compétences ont l'air d'être très reconnues et son début de mandat a plutôt convaincu et je pense qu'elle va mener son Margrethe Vestager. Elle va, à mon avis, elle va travailler le mieux possible. Et après, on peut aussi se demander si justement Jean-Claude Juncker, mais c'est la même question qu'on s'est posée avec Pierre Moscovici, maintenant qu'il est à la tête de la Commission européenne, va-t-il vraiment pouvoir empêcher qu'on mette au grand jour il est dans une position extrêmement délicate.
Mais il n'empêchera rien. Il a déjà pris un engagement de neutralité, comme c'est la pratique depuis 50 ans au sein de la Commission européenne. Il n'entrera rien.
Il n'y a plus jamais de conflit d'intérêts, si je vous écoute. Ça n'existe plus, le conflit d'intérêts.
Non, mais il n'est plus responsable.
Impliqué dans une enquête, normalement, ça ne devrait pas être ses services qui enquêtent sur lui-même ou sur ce qu'il a fait.
Philippe Pierchot, vous voulez réagir.
L'organisation est collégiale.
Peut-être plutôt que sur le passé, un peu sur l'avenir, moi je pense qu'en fait, le système vers lequel on devrait aller, c'est le même système qu'on a aujourd'hui en Europe sur la TVA. C'est-à-dire un taux minimum de TVA.
Absolument.
Qui serait un taux, on aurait un taux minimum d'imposition sur les sociétés partout en Europe et une partie de cet impôt sur les sociétés, comme la TVA, viendrait abonder le budget européen. À partir du moment où on fait l'Europe, à partir du moment où on dit il faut une libre circulation des capitaux, et ben pour que cette libre circulation des capitaux elle puisse se faire dans une relative confiance entre les États européens, même si c'est extrêmement difficile, même si probablement ça se fera pas en un mandat, je pense que c'est absolument vers ça qu'il faut aller.
Avec une transparence sur les impôts payés par opérateur et par État. C'est pas compliqué. Les socialistes s'étaient engagés à le faire, ils ne l'ont pas fait en France. Ça serait tellement simple. Chaque entreprise dit ce qu'elle paye, le chiffre d'affaires réalisé, le nombre de salariés et ce qu'elle paye comme impôt dans chaque État où elle intervient directement ou par des filiales.
Hashtag transparence, on n'en est pas encore là.
Il est clair qu'au 21e siècle, il y a des défis majeurs et celui de la transparence fiscale en fait partie.
Alors, on peut évidemment se poser des questions, puis on va changer de sujet, mais effectivement, s'il n'y avait pas la révélation LuxLeaks, est-ce que l'harmonisation fiscale aurait été au cœur des priorités de Jean-Claude Juncker, Clémentine Forissier?
C'était pas du tout une thématique prépondérante pendant sa campagne, on n'en a pas tellement entendu parler, et là, ça le devient parce que c'est poussé par, justement, les révélations, l'actualité, etc. Donc non, moi, je pense que ce qui est assez amusant, d'ailleurs, c'est que c'est le commissaire français qui va être en charge de faire des propositions là-dessus. Ce qui est amusant, c'est qu'on pensait au début qu'il ne serait qu'en charge de la surveillance budgétaire et finalement on l'a cherché énormément là-dessus et en fait on se demande s'il va pas plutôt être commissaire à la fiscalité.
Ah, parce que c'est il est le commissaire à la fiscalité.
Mais je veux dire, est-ce que ça va pas prendre le pas de façon beaucoup plus importante sur ces activités?
Sachant que la gouvernance économique elle est plutôt dans le ressort de la compétence d'autres membres de la Commission européenne. Oui.
Alors les priorités de la Commission, on peut les rappeler, elles ont été évidemment évoquées et présentées par Jean-Claude Juncker. La lutte contre le chômage et notamment celui des jeunes, difficile avec une initiative européenne pour la jeunesse qui est tout de même encalaminée, on peut dire ça, Clémentine Forissier.
Oui, et puis bon, c'est 6 milliards d'euros. Enfin, là, voilà. Ils vont assurer le suivi. Mais le chômage des jeunes, est-ce qu'on règle le chômage des jeunes avec 6 milliards d'euros? On règle le chômage des jeunes parce qu'on fait en sorte que le marché du travail soit plus attractif ou permette à ces jeunes d'être employés.
Hein. C'est avec de la création
d'emploi. Philippe Pierchoc, un marché unique du numérique, c'est une bonne idée, a priori. Mais
non, mais c'est une très bonne idée. Simplement, il faut, comme je le disais tout à l'heure, pour créer un marché unique, il faut que ce marché déjà ait des régulations qui soient à peu près les mêmes partout. Et puis par ailleurs, il faut que des investisseurs privés puissent investir sur des projets numériques du futur en ayant à peu près la garantie de retrouver leur argent, voire même d'en gagner.
Et puis aussi, autre priorité, un marché de l'énergie plus intégré. Alors on va pas faire un débat sur l'énergie, mais évidemment ça pose plein de problèmes. Évidemment l'idée d'être moins dépendant du gaz russe, ça demande plus d'intégration et on a beaucoup d'investissements. Là pour le coup, les 315
milliards d'importations. Au niveau de l'Union européenne d'énergie fossile. Ça, c'est des importations de l'UE. Donc vous voyez, il y a une source d'économie majeure, 450 milliards.
Un énorme
chantier. Il y a un gisier.
On va pas l'aborder. Alors, en contrepartie, la nouvelle... On fera une autre émission, Pascal Durand, rassurez-vous. En contrepartie, la nouvelle commission abandonne de nombreux textes de loi, des directives, qui étaient plus ou moins en sommeil. La qualité de l'air, l'économie circulaire,
ça fait bon... Non, c'est pas tout à fait abandonné, ça. Il faut écouter précisément ce qu'a dit M. Timmermans au Parlement européen le mardi 16 16 décembre.
Parce qu'on l'a interpellé à maintes reprises, et vous, et nous, enfin, je veux dire,
tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est tout l'intérêt des débats parlementaires. C'est qu'il y a peut-être des papiers, des pré-papiers, des pré-pré-papiers, des fuites plus ou moins savamment organisées. Et puis ensuite, il y a un débat parlementaire. Il se passe quelque chose. 3 heures de questions-réponses. Et, à la fin, eh bien, il y a des mises au point. Voilà. Bon, elles ont été très claires sur ces deux sujets-là.
C'est tout à fait clair. En revanche, c'était très grave. Parce que on a le sommet climat, etc. Et vous l'avez dit sur l'énergie. C'était très, très grave de laisser passer, la question de l'air, la question du recyclage, la question des déchets. Enfin, c'était des sujets majeurs et c'était un très très mauvais signal. Donc j'espère effectivement, monsieur Timmermans a dit
Il
a dit. Là, le Parlement a joué son rôle.
Tout à fait.
Maintenant, on va voir.
Alors, en contrepartie, 80 projets, par exemple, un projet pour mieux protéger les femmes enceintes au travail a été abandonné.
Non, c'est pas tout à fait ça. Pardonnez-moi, là aussi. non, il n'est pas abandonné. C'est un projet qui, incontestablement, est très encarafé au niveau du Conseil encore. Voilà. Si d'ici 6 mois, il n'y a pas de déblocage, la Commission européenne retire ce projet-là et revient avec un autre proposition.
Ma question, c'est, il semble que la Commission européenne se concentre sur l'essentiel, l'économie relancée. Donc on abandonne, elle abandonne un certain nombre de projets. Est-ce que c'est une bonne méthode?
C'est pas l'essentiel.
Légiférer mieux en quelque sorte.
C'est pas l'essentiel. La santé, vous l'avez dit, les conditions de travail, le bien-être au travail, le fait d'avoir du travail, etc. Ça n'est pas un accessoire. C'est un essentiel, justement. Là où on se trompe et où la Commission se trompe, c'est qu'elle dissocie, encore une fois, la recherche, sa fameuse recherche de croissance, celle sur laquelle on va allumer un cierge tous les matins, et le fait que l'Europe était un équilibre entre, justement, l'économie, l'environnement, la santé, c'était un équilibre, l'Europe. Donc, toucher à ça, c'est-à-dire dire on va privilégier l'économie sans comprendre que si on donne pas du travail, si les conditions de travail ne sont pas bonnes, alors, et si la qualité de l'air, la santé, etc., se dégrade, alors l'Europe va perdre ce qu'elle est, eh bien, là aussi, la Commission se trompe lourdement. Il faut retrouver cet équilibre.
Que la Commission soit en train de passer par pertes et profits, la santé,
elle en a la tentation,
des travailleurs,
elle
etc.
en a manifestement la tentation.
Il y a une certaine obsolescence de propositions directives ou de propositions de règlement. À partir du moment où un texte est puissamment encarafé et qu'au Conseil, on n'arrive pas à le débloquer, raisonnable d'envisager au bout d'un certain nombre d'années.
Chaque fois qu'un va bloquer quelque chose, la Commission va reculer, c'est mauvais signe pour l'intérêt général.
Peut-être venir avec un autre projet. C'est ce que d'ailleurs au Parlement européen, nous avions
également appelé de nos voeux. Pour les faire aboutir. On va changer de sujet. Philippe Herschock, autre personnalité de la nouvelle équipe, évidemment, Donald Tusk, on l'a mentionné dans la présentation de l'émission, on l'a un petit peu oublié. Un Polonais à la tête du Conseil européen, c'est pas anodin. Et puis une autre personnalité, Federica en charge de la politique étrangère extérieure de l'Union européenne. Et y en a-t-il? Est-ce que l'un et l'autre auront une position un peu plus sensible à l'égard de la Russie, à votre avis?
Bon, alors il me semble déjà que Madame Mogherini avait été attendue sur ce sujet, puisque bon, on lui avait reproché son inexpérience, reproché le fait qu'elle était allée à Moscou pendant la campagne. Donc là encore, c'est un peu comme le LuxLeaks juste avant la nomination. D'une certaine manière, ça va la pousser probablement à tenir la balance, hein, parce que sur ce sujet-là, les intérêts des États membres sont extrêmement différents, hein, entre les Polonais d'un côté et les Italiens ou les Espagnols de l'autre. On a deux politiques totalement différentes. Et pour Donald Tusk, bon, là, dans ce cas-là aussi, il me semble déjà qu'il ne faut pas caricaturer la position qui est celle des Polonais ou des Baltes sur la question russe aujourd'hui. Ils sont en première ligne, ils sont les plus près de la Russie. C'est pas des extrémistes, hein, ni les uns ni les autres. Simplement, ils disent que bon, il y a des intérêts, les leurs et puis ceux de la Russie, qu'il faut les prendre en compte, qu'on vit pas dans un monde de bisounours. Et que, par ailleurs, l'Europe a aussi des valeurs et qu'elle doit les défendre. Si elle n'est pas capable de les défendre à ses frontières, et ben, c'est qu'elle n'est pas capable de les défendre tout court.
Alors, on arrive gentiment au terme de cette émission. La commission de la dernière chance qu'évoque régulièrement Jean-Claude Juncker, est-ce qu'on peut y croire, Clémentine Forestier? On a évidemment envie d'y croire, mais est-ce qu'on peut y croire?
Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, la commission de la dernière chance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 5 ans, on a une méthode de calcul qui fait qu'on arrive à
des plus
avoir,
et des moins.
Des plus et des moins, et puis on décide, bon, ok, on sort de l'Union européenne, etc. Enfin, moi, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des vrais enjeux, et on voit bien, d'ailleurs, la frilosité des États qui ont la pression de leur opinion publique, qui ont peur, notamment en France, de la montée des extrêmes, etc., et qui n'osent pas faire un pas de plus vers l'Europe, parce qu'ils se disent qu'à chaque fois qu'ils font un pas de plus vers l'Europe, ça va leur faire perdre des points au niveau national. Donc, il y a y a cet enjeu-là qui est très très fort pour certains pays, pas pour tous. Hein. Et puis effectivement, se rendre compte que, et on le voit bien avec l'exemple de la Russie, c'est que les pays européens pris individuellement peuvent absolument rien faire. Il faut absolument qu'on ait une parole à peu près homogène sur la réponse à la Russie, notamment vis-à-vis de l'Ukraine. Et on voit que c'est très difficile, mais si on n'y arrive pas, ça peut être vraiment très grave.
Philippe Hirschfeld, vous qui êtes un observateur, vous n'êtes pas dans l'hémicycle du Parlement européen, vous avez ça un peu de recul. Quand même une grande différence déjà ou pas avec la Commission Barroso ?
Moi, déjà, il y a une grande différence d'attente. Hein. Je pense que personne n'attendait plus grand-chose de la commission Barroso 2 et que là, cette nouvelle commission, elle suscite beaucoup d'attentes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça fait le lien avec ce que vous disiez sur l'abandon de projet ou pas, cette commission, c'est aussi une commission plus politique. C'est-à-dire qu'on a dit aux gens, voilà, si vous votez pour la droite majoritairement, vous aurez une commission de droite. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a une commission qui est quand même si elle est composée de gens qui viennent aussi de différents partis socialistes
et
européens.
Et soutenue par les socialistes.
Et soutenue aussi par les socialistes. Mais quand même, on a globalement une commission qui s'affirme libérale, qui va mener des projets qui sont probablement des projets peut-être encore plus libéraux que les projets qui avaient été menés par la commission Barroso, et qui sera jugée dans 5 ans. Au moment des prochaines élections.
Tout dépend de ce qu'on appelle libéral. Je ne sais pas si avancer sur le chemin de l'harmonisation fiscale, c'est forcément un chemin qu'il faut qualifier de libéral. Hein. Je crois que c'est une commission qui va être pragmatique et qui va se concentrer sur l'essentiel, encore une fois. En ce sens, elle est très politique.
Alors, il y aura évidemment face au lobby pour voir si elle avance effectivement vers là où elle dit vouloir avancer. Parce qu'à un moment, il y a du dur.
Il y aura évidemment un grand dossier pour cette commission, c'est le traité transatlantique. Mais alors là, on ne va pas à 58 commencer le débat sur le traité transatlantique. On consacrera une émission et plusieurs sur le traité transatlantique.
Oui, c'est un collège.
En tout cas, merci à tous les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Constance Lucri, eurodéputée UMP-PPE, Pascal Durand, eurodéputée Europe Écologie Les Verts, Clémentine Forestier, contexte.com et Philippe Hirschfeld, enseignant-chercheur à l'Université catholique de Louvain. Réalisation Guillaume Minier sur la page de l'émission via RFI.fr. Plein de choses vous attendent et par exemple les références de nos invités. Vous pourrez réécouter cette émission sur vos tablettes et sur vos smartphones via une application à télécharger gratuitement sur le site RFI. Sans oublier bien sûr les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour rester en contact. Daniel Escalou, que vous soyez en Europe ou dans le monde, je vous donne rendez-vous non pas la semaine prochaine mais l'année prochaine. La semaine prochaine, rediffusion d'une émission enregistrée à Umeå, capitale européenne de la culture 2013. Umeå, c'est dans le grand nord de la Suède. Au revoir, bonne fin d'année et à l'année prochaine. Au revoir. Yeah.